En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Donc la microbiologie, effectivement, c'est une thématique qui est énorme et je ne vais pas faire comme Yves Agide qui vous a dit c'est là, parce qu'effectivement la microbiologie c'est là, mais c'est aussi là, c'est partout, c'est sur la terre, c'est dans les océans, les bactéries elles sont partout. Et si on en parle beaucoup en ce moment, c'est parce qu'en fait depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a une sorte de révolution qui fait qu'on réalise qu'il ne faut pas associer le mot bactérie à maladie, mais il faut associer bactérie oui. au mot santé, équilibre de l'environnement, propriété incroyable pour la santé, justement. Et donc, c'est une sorte de révolution dans la vision qu'on a du monde non perceptible à l'œil nu et qu'il faut regarder avec des microscopes.
Voilà.
Donc, pourquoi il y a une révolution depuis 20 ans ? C'est justement dû à plusieurs choses. C'est dû au fait que, justement, l'imagerie, les microscopes ont avancé de façon extraordinaire. On a des outils qui sont absolument incroyables. On peut regarder les bactéries, non seulement si elles sont tuées, mais on peut les regarder en vidéomicroscopie. Donc, on peut vraiment regarder ce qui se passe dans le monde vivant. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième raison pour laquelle on parle de plus en plus de bactéries, c'est qu'on est capable de les regarder dans leur milieu naturel. Et des bactéries dans leur milieu naturel, elles ne sont pas isolées, ce n'est pas une seule bactérie qu'on regarde, c'est des bactéries qui sont dans un ensemble. Et on est capable d'analyser ensemble toutes les bactéries, par exemple dans un intestin, en les séquençant, c'est-à-dire en regardant exactement leur génome, mais pas le génome d'une bactérie, mais le génome de toutes les bactéries qui sont là. Et on est capable de faire des répertoires qu'on était incapable de faire il y a une dizaine d'années. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée. J'appelle pas ça la génomique, j'appelle ça la métagénomique, c'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble de toutes les bactéries. Si je ne suis pas claire, vous faites un petit signe comme ça. Ouais. Et la troisième chose, c'est qu'on a des outils informatiques.
Ouais.
Et non seulement pour stocker les données qu'on a, pour les analyser, pour les comparer, aussi bien que ce soit les images de la microscopie, aussi bien les données de la génomique, on a besoin d'outils bioinformatiques. Et donc, l'ensemble de ces trois choses, hein, la métagénomique, la vidéomicroscopie, la microscopie et l'informatique, font que la microbiologie, à nouveau, est sur le devant de la scène. Quand je suis arrivé à l'Institut Pasteur, il fallait être un peu ringard pour vouloir continuer à travailler sur les bactéries. C'était la période juste après les prix Nobel de Jacob, Monod et Ilvoff. Et tout le monde disait, les bactéries, c'est fini, maintenant, vous travaillez sur les souris, il faut travailler sur éventuellement des drosophiles, sur des animaux un peu plus importants, pour pouvoir comprendre le fonctionnement humain. Et quelques personnes se sont quand même acharnées à travailler sur les bactéries, et je fais partie
de ça. Et vous en étiez.
Voilà.
Voilà. Et alors, pourquoi avez-vous travaillé sur les bactéries, et qu'est-ce que le microscope électronique et l'informatique vous ont permis d'atteindre?
Bon, on ne va pas parler de mon cas personnel parce que ce n'est peut-être pas aujourd'hui une entrevue avec Pascal Cossard. Plutôt, élargissons le débat.
Si
moi, je suis arrivé dans les bactéries parce que je vous ai dit que j'étais chimiste.
Oui.
Et ce qui m'avait passionné, une fois où j'avais entendu un cours d'introduction fait par Jean Montreuil à Lille, c'est qu'il avait eu capacité de faire comprendre que les protéines, ce sont des produits chimiques et qu'il y avait des gens qui étaient capables d'établir la structure de ces protéines. Et notamment, j'avais été passionné par l'insuline qui avait été donc complètement... La structure de l'insuline avait été étudiée par Fred Sanger.
Oui.
Donc voilà. Et exactement pour la même raison, je suis arrivé à l'Institut Pasteur pour séquencer une protéine. Très vite, on n'arrivait pas au bout, on est allé au gène qui code pour cette protéine, puis à la bactérie, et voilà, je suis dans le monde des bactéries.
Voilà, alors ce monde des bactéries s'ouvre sur quel univers ?
Alors, c'est là où on arrive au sujet que vous aviez abordé, c'est-à-dire ce fameux microbiote. Et c'est vrai que, personnellement, pendant des années, je me suis intéressé à des bactéries qui étaient des modèles, le colibacille. Très vite, je me suis intéressée à une bactérie qui contamine les aliments qui s'appelle Listeria. Et donc, on l'a complètement déshabillée de tous les côtés. Je sais que cette bactérie arrive par des aliments contaminés, traverse l'intestin, va au cerveau, peut contaminer le fœtus chez les femmes enceintes, etc. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on est obligé de revoir notre copie. Pourquoi ? Parce que quand une bactérie arrive dans un intestin, ce n'est pas un intestin qui est vierge. Il y a des millions de bactéries qui sont là aussi. Et en fait, Yvagie Desparties est en train de dédicacer son livre. Oui. Mais il y a autant de bactéries dans notre intestin que de synapses que vous avez dans votre cerveau. Je veux dire, il y a 100 000 milliards de bactéries. Et ça, c'est un chiffre énorme. Il est peut-être à revoir à la baisse. Certains disent qu'on est peut-être seulement à 30 000 milliards, mais c'est quand même encore beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elles font, toutes ces bactéries ? Bon, on le savait depuis longtemps, parce qu'on appelait ça la flore intestinale.
Oui.
Donc, la flore intestinale, tout le monde le savait, participe à la dernière étape de la digestion. Puisqu'elle est là, on digère, on mâche, puis l'estomac fait un certain type d'autre travail, et quand on arrive au bout du tube digestif, les bactéries participent à, disons, la dernière étape, qui est d'utiliser les aliments pour les réduire à des composants qui vont traverser cette barrière et nourrir tout votre corps. Bon. Et bien maintenant, on sait que les bactéries, elles font autre chose. Par exemple, pendant l'étape du développement, les bactéries vont stimuler le développement de l'intestin. Pendant toute la vie, on sait que les bactéries vont stimuler, par exemple, certaines cellules immunitaires à produire des composants qui vont stimuler toutes les défenses immunitaires. On sait que les bactéries produisent des composants qui vont produire des neurotransmetteurs. On sait que 90% de la sérotonine est fabriquée au niveau du tractus intestinal. Donc, ces composants peuvent aller jusqu'au cerveau et stimuler les neurones dont vous avez entendu parler tout à l'heure et les stimuler dans un bon sens ou dans un mauvais sens. On sait que l'alimentation qui fait que vos bactéries sont dans un certain état va faire que éventuellement vous stimulez d'une certaine façon ou d'une autre et qui fait que votre cerveau réagit différemment.
C'est-à-dire que Yvagie ne peut pas travailler sans vous en réalité.
Non, donc voilà un tout petit peu les facettes de ce qui est en train d'être examiné. Alors évidemment, maintenant, on commence à regarder ce qui se passe au moment de la naissance, pendant la vie, pendant la vieillesse. On commence à regarder ce qui se passe si vous prenez un traitement antibiotique. Vous avez pris chacun d'entre vous a pris des traitements antibiotiques pour, par exemple, une angine. Quand on a pris des antibiotiques pour traiter un streptocoque, disons il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, quelquefois on vous donnait un tout petit peu d'ultralvure, on vous disait prenez un yaourt pour reconstituer votre flore intestinale. Maintenant on s'aperçoit des dégâts que ça a fait, puisque vous avez des gens qui reconstituent leur flore intestinale très rapidement, et puis vous avez des gens qui la reconstituent pas très bien.
Alors est-ce que précisément, l'allongement de la durée de vie intervient dans cette reconstitution. Est-ce qu'on reconstitue plus facilement son microbiote ou la flore intestinale parce qu'on est jeune ou parce qu'on est plus âgé ? Est-ce qu'il y a des différences ou pas ?
Oui, il y a des différences, mais avant d'aborder les différences, je voudrais vous dire qu'il y a des différences qu'on a repérées pendant tout le temps de la vie. C'est-à-dire que il y a un mot-clé qui est la diversité. Il faut avoir une flore qui est très diversifiée pour être en bonne santé. Ou le contraire, si vous êtes en bonne santé, vous avez une flore qui est très diversifiée. Donc cette flore, elle est égale à zéro pratiquement au jour, juste au moment de la naissance, et elle s'établit au moment de la naissance. On sait qu'au moment de la naissance, déjà, une naissance qui a lieu par voie normale par rapport à une voie césarienne fait que la flore va être différente.
Ah oui ?
Oui, on le sait, ça, c'est clair et net. Et puis, cette flore s'établit On va dire qu'au bout de 3 ans, la flore est complètement... La flore est bien individualisée. Oui. Et elle va se maintenir. Si vous êtes un peu malade, à un moment donné, si vous avez un traitement antibiotique, cette flore se diminue, mais elle peut se rétablir. Et puis, on sait aussi qu'au moment où la vie passe, la flore elle devient moins diversifiée. Et il faut faire tout pour qu'elle reste diversifiée. Parce que ça correspond à l'équilibre. En fait, le mot clé de tout ce que je vous raconte, c'est équilibre. Et là, on est très vite dans ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est qu'on arrive à la nutrition. En fait, quand vous mangez, vous nourrissez, mais vous nourrissez votre flore intestinale. Bon, je voudrais quand même dire qu'on a une flore intestinale, on a un microbiote intestinal, mais vous en avez sur la peau, comme je disais, dans la cavité oro-buccale, sur vos cheveux, etc. Il y a des flores partout et il y en a dans l'environnement. Donc la nutrition est extrêmement importante et un jour vous m'avez entendu à la radio, je le sais, parce que cette émission c'était au moment de mes
des 50 ans.
Des 50 ans de mai 68 et l'idée était de dire si vous étiez en mai 68 pourquoi vous battriez. Et moi j'ai dit je veux me battre pour que les connaissances qu'on a acquises ces dernières années sur le microbiote servent à lutter contre la menace d'obésité qu'on a en France, parce que quand on entend qu'aux États-Unis, en 2025, il va y avoir la moitié de la population qui va être obèse, il faut surtout tout faire pour qu'en France, on n'arrive pas à ça. Et on n'est pas si mal, finalement. En France, on est, pour le moment, ça ne va pas si mal, mais il est clair que, et vous le savez tous, que l'obésité correspond souvent à un problème, j'allais dire, un problème socio-culturel. Il est clair que les classes socio-culturelles plus élevées ont en général des moyens plus élevés et en général la facilité d'acheter des nourritures qui sont peut-être plus saines, plus équilibrées. Et mon message est vraiment très fort, c'est que je pense qu'il faut essayer d'éduquer les jeunes parents pour qu'ils comprennent qu'il vaut mieux manger une soupe qu'ils ont fait plutôt que d'acheter une pizza. Ça a l'air de tomber sous le sens, mais ce n'est pas si évident que ça à faire passer comme message.
Alors, mais on va. Il me semble que ça vaut que nous insistions là-dessus. Je vais revenir un tout petit peu au préalable, c'est-à-dire qu'il faut donc nourrir de manière équilibrée ce microbiote ou cette flore intestinale.
Absolument.
Très bien. C'est comme on a compris qu'il fallait nourrir en quelque sorte les neurones, les fameux noyaux gris là, centraux du cerveau. Et c'est cela qui décline. Et donc, le microbiote décline lui aussi avec l'âge. Bon. Alors, effectivement, le phénomène de l'obésité que vous venez de citer est un phénomène qui a certes toujours existé, mais qui devient de plus en plus lourd à cause, évidemment, de l'alimentation et notamment des sucres qu'absorbent beaucoup les Américains. Alors, vous dites c'est lié aux origines ou aux origines sociales des uns et des autres. Mais l'obésité a-t-elle toujours existé ou bien pas du tout ?
J'ai pas dit qu'il y avait les origines. Non, oui. Justement. Justement, voilà. On pourrait dire qu'il y a des composantes, par exemple, génétiques. Les composantes génétiques sont beaucoup plus faibles qu'on ne le croit. C'est d'accord. L'environnement, et quand je dis l'environnement, ça comprend la nutrition qui a pour conséquence l'obésité. Et ça, il y a des études qui sont très bien faites. Mais une étude que je trouve particulièrement intéressante aux États-Unis, et je voudrais revenir sur les antibiotiques, c'est qu'on a vu que les enfants qui avaient reçu des traitements antibiotiques répétitifs étaient des candidats à l'obésité. Donc,
Pourquoi ? Parce que les antibiotiques, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Ils ont déséquilibré le microbiote intestinal.
D'accord.
Qui fait que, la récupération ne se fait plus assez bien et finalement, ils ont une flore qui dirige vers l'obésité.
Autrement dit, c'est grâce à vous si aujourd'hui, de plus en plus de médecins disent attention aux antibiotiques.
C'est pas grâce à nous. Enfin, alors là, on aborde un autre problème.
Hein. Non,
c'est...
mais quand même.
Non, mais le problème.
Puisque il y a 20 ans, effectivement, pour tout, on vous disait antibiotiques.
Oui,
aujourd'hui, de moins en moins.
Il n'y a pas que ça.
Alors, allez-y.
Là, on dit attention aux antibiotiques pour les problèmes liés à la flore intestinale, oui. Au microbiote intestinal. Mais il y a aussi, ne donnez pas trop d'antibiotiques, puisqu'on est arrivé à la catastrophe que vous connaissez. Beaucoup des agents pathogènes sont devenus résistants aux antibiotiques. Beaucoup des bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques. Donc gardons les antibiotiques qu'on a pour les moments où vraiment on en a besoin.
Ouais.
Moins on s'en servira, plus on pourra préserver nos outils pour quand on en a vraiment besoin.
Bien sûr. OK. Donc on a compris que les antibiotiques avaient fait pas mal de dégâts.
Oui.
Bon. Alors, ensuite... Obésité, très bien. Et vous dites équilibre pour se préserver de l'obésité. Mais est-ce que l'obésité en soi, la moitié de la population américaine, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va se dégrader
En fait, c'est justement ça. C'est les problèmes qui sont liés à l'obésité, qui entraînent vers des troubles... vasculaire, qui entoure vers des troubles cardiaques. Je ne suis pas médecin, donc je ne voudrais pas m'aventurer dans des précisions que je ne connais pas. Mais c'est ça, c'est toutes les conséquences vers des maladies qui sont chroniques et qui sont vraiment terribles, quoi.
Et ça touche le monde occidental ou ça touche tous les univers?
Ça touche le monde occidental, mais ça touche aussi des pays en voie de développement.
Ouais.
Et je crois qu'il faut vraiment être conscient que c'est...
Alors, comment fait-on pour le combattre? Ça, c'est la nutrition, là.
On essaie de parler le plus possible aux jeunes parents, aux enfants. On essaie
il faut que les jeunes parents comprennent leur responsabilité qu'ils ont.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des effets néfastes de la malbouffe. Hein,
ouais.
Je pense que c'est de plus en plus clair. Et puis, c'est évident que l'épidémie augmentant, on a ça devant les yeux, quoi.
Bien sûr. Nutrition, équilibre, malbouffe. Donc l'ennemi, c'est la malbouffe.
Oui.
Et on parlera de gastronomie demain matin avec Jean-Robert Pitt. Mais
du côté, si vous voulez, je crois qu'il faut être conscient qu'on peut agir activement sur tout ce microbiote. C'est ça qui est très important. Parce que pour le moment, les chercheurs font des corrélations entre les choses. Parce que évidemment, chez les obèses, on s'est aperçu que la flore était complètement différente. Donc on peut éventuellement avoir des moyens de rétablir. Alors il y a des gens qui disent on peut éventuellement prendre certaines bactéries qui pourraient faire baisser l'obésité. Il y a une bactérie qui s'appelle Akkermansia, par exemple, dont on sait qu'elle a des propriétés qui vont dans ce sens-là. Je pense que ce n'est pas la meilleure façon.
On dirait que c'est une plante.
Non, moi je serais plutôt d'avis qu'il vaut mieux agir sur l'alimentation directement plutôt que de...
Et alors, donc c'est d'origine, si je puis dire, Institut Pasteur, tous les slogans pédagogiques sur 5 légumes par jour, etc.
Non, ça ne vient pas du tout
Pasteur. Alors, que dit l'Institut Pasteur à travers vous pour que l'alimentation soit meilleure? Quels sont les... on va utiliser un mot banal dans ce domaine, mais enfin les recettes pour précisément préserver le fameux microbiote.
Non, mais on peut dire et redire qu'il faut avoir une alimentation équilibrée.
Ouais.
Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut avoir une alimentation nécessairement bio, acheter du bio, mais c'est évident qu'il faut avoir... des horaires de repas réguliers, il ne faut pas grignoter. Je pense que c'est le béaba de l'équilibre de la nutrition.
D'accord. Et donc, grâce à ça, on combat l'obésité. Grâce à ça, on continue d'allonger la vie. Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces éléments?
Oui, je pense qu'il y a un lien qui est très précis. On va, en fait, tout à l'heure, on parlait de... vieillissement en bonne santé, et je pense que c'est évident que si on
ce que vous préconisez concourt à ce bon vieillissement.
Je suis très optimiste ce que vous dites.
D'accord. Oui. Et quand vous regardez les 50 ans qui nous précèdent et où nous avons gagné 20 ans d'espérance de vie, c'est pour l'essentiel grâce et en dépit, grâce à l'alimentation et en dépit de toutes les pizzas qu'on a absorbées avec du Coca-Cola.
Non. Allez-y. L'espérance de vie a augmenté grâce à essentiellement deux choses, les antibiotiques et les vaccinations.
Alors,
les maladies infectieuses ont baissé, et elles ont baissé essentiellement grâce à ces deux composantes qui sont absolument essentielles. Alors là, si vous me faites partir sur les antibiotiques ou sur les vaccins, c'est évident que c'est beaucoup plus important que l'alimentation équilibrée qui, là, c'est le bon sens.
Oui, mais vous nous avez expliqué il y a quelques instants que les antibiotiques avaient créé des tas de dégâts aussi.
Oui, mais...
Alors, c'est l'équilibre.
C'est l'équilibre. On est en train de réaliser à l'heure actuelle qu'il faut moduler la prise d'antibiotiques, c'est clair, mais il ne faut pas non plus être complètement borné et dire qu'il ne faut pas en prendre.
C'est quand même ça.
Il faut y avoir recours.
D'accord.
Il faut laisser les enfants développer leur système immunitaire.
Oui.
Il faut les faire vivre dans une atmosphère qui n'est pas trop stérile. Moi, j'ai un ami qui a écrit un livre qui s'appelle en anglais « Laisser les enfants manger de la terre et de la saleté ». C'est vrai qu'il faut laisser les enfants stimuler leur système immunitaire. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il faut les vacciner. Je pense que tout le monde est au courant que la vaccination avec 11 vaccins est maintenant obligatoire.
Bien sûr, tout à fait. Ça, vous avez beaucoup soutenu cette idée-là.
Voilà.
Et les travaux sur lesquels vous êtes aujourd'hui, enfin qui vous occupent le plus, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher avec le plus d'intensité, étant donné le travail que vous avez déjà accompli, qui vous a permis de conclure à ce que vous venez d'expliquer, ces liens, et qu'est-ce qui aujourd'hui retient le plus votre travail de recherche ?
Ce qui retient le plus mon attention à l'heure actuelle, c'est de comprendre comment... une bactérie responsable d'une infection alimentaire a la force de traverser l'intestin après être pressée dans tout le tube digestif où elle a dû lutter contre les autres bactéries. Et on s'est aperçu, par exemple, que toutes les bactéries que j'appelle Listeria, puisque c'est la bactérie sur laquelle je travaille, il y en a une qui est un clone épidémique où on s'aperçoit qu'elle produit une toxine qui agit spécifiquement contre les bactéries de l'intestin. Donc, elle tue les autres pour pouvoir se placer en gagnante, si on peut dire.
D'accord. Voilà. Et là, les outils que vous avez aujourd'hui, qui n'ont certainement pas cessé de s'améliorer encore par rapport aux outils d'il y a 20 ans, vous permettent d'aller plus loin.
Oui, alors on va plus loin, si vous voulez, dans la comparaison de toutes les bactéries. On va la plus loin dans la comparaison de la façon dont ces bactéries s'adaptent à différents stress.
Oui.
Et en fait, là, on est en train de mettre le doigt sur un nouveau gène de résistance aux antibiotiques. On s'est aperçu que quand on traitait aux antibiotiques, on stimulait chez la bactérie un gène de résistance aux antibiotiques. Et là, c'est la chance. Ce gène de résistance n'avait jamais été décrit. C'est un gène qui est un petit peu compliqué, mais c'est un gène qui n'avait jamais été décrit, qui donne un mécanisme nouveau.
Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, évidemment, nous avons dit combien le problème de l'obésité était un vrai risque, un vrai danger. Vous avez dit que c'était pas...
La France était encore assez bien placée.
Mais en Europe, il y a des tendances à développer ce type de...
Mais on revient toujours au problème un tout petit peu des milieux socioculturels.
Oui, c'est ça.
Évidemment, les pays un peu plus pauvres sont peut-être plus...
Mais on a du mal à comprendre ça parce que... Au fond, c'est des pays pauvres, il y en a toujours eu. Enfin, je veux dire, on a tous évolué parallèlement.
Les pays pauvres des choses qui n'existaient pas avant.
Voilà.
Des magasins, des marques que je ne voudrais pas citer aujourd'hui,
d'accord,
mais qui n'existaient pas auparavant.
Oui, c'est ça.
Vous promenez même à Tahiti et vous trouvez des chaînes de...
Cela dit, à Tahiti, la tendance était quand même déjà existante, oui. Absolument. Bon, si on essaye de rassembler donc les conclusions qui sont les vôtres, c'est l'équilibre. Encore faut-il bien comprendre ce que c'est que l'équilibre dans l'alimentation.
Oui.
Il faut donc beaucoup travailler la pédagogie à l'égard du grand public dans ce domaine.
Je pense, oui.
Ouais. Et ça, c'est l'autorité des, enfin, c'est de, du domaine de la, des autorités de santé publique.
Je pense qu'il y a un gros effort à faire, mais même ça va jusque aux jeunes médecins, j'ai envie de dire. Et en fait, avec une de mes collègues, Karine Clément, qui elle est médecin, et elle a. Enfin, on a décidé de créer un diplôme universitaire pour jeunes médecins qui se recycleraient sur, justement, microbiote et santé.
C'est ça.
Donc, essayer de comprendre comment les découvertes récentes nous amènent à lutter contre des déséquilibres, justement.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier de cette première introduction et donc nous allons un peu parler maintenant avec nos amis dans la salle pour aller un peu plus loin et donc poser vos propres questions. Alors, les questions. Madame, on va vous donner le micro pour que vous puissiez intervenir.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez évoqué le point extrêmement majeur et intéressant de l'équilibre alimentaire, mais qui est quand même, dit comme ça, un concept un petit peu vague. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets d'aliments favorisant l'état, le bon état, dirons-nous, du microbiote, et au contraire, d'aliments ou de comportements alimentaires qui est de nature à l'infléchir dans le mauvais sens?
Bon, alors, de toute façon, le sucre est à prendre en toute petite quantité, ça c'est clair. Mais les autres aliments, j'ai plutôt envie de vous dire qu'il faut les prendre de façon équilibrée, c'est-à-dire de façon... il faut faire des mélanges. Moi, je mange beaucoup de pain, par exemple. Il y a des gens qui croient que ça fait grossir, mais je pense qu'il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. On peut manger des corps gras, mais c'est vraiment un ensemble. Il n'y a pas... Par contre, je vais vous dire, mangez pas une pizza le matin, le midi et le soir. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que je ne suis pas assez précise, mais la précision, c'est vraiment équilibrer vos repas. Si l'entrée est très riche, faites un deuxième plat qui soit plus léger.
Alors vous êtes cuisinière à la maison?
Oui.
Et donc toutes sortes de recettes?
Toutes sortes de recettes. J'ai pas toujours le temps de faire toutes sortes de recettes.
Oui.
C'est plutôt assez sain, oui.
Oui.
J'utilise très peu de surgelés.
Oui, peu de surgelés.
Oui, pas de plats tout faits, etc.
Non. Ouais. Donc, ok. Suite de questions. Monsieur.
Oui, bonsoir. J'aimerais que vous disiez quelques mots sur ce qui me semble une nouveauté que je viens de découvrir dans un compte-rendu de séjour hospitalier suite à ce qu'on appelle maintenant un sepsis, la septicémie. Les laboratoires ont séché quant à découvrir la bactérie, les antibiotiques ont fait merveille, mais j'ai découvert que j'avais été bien pris en charge par tous les services d'urgence, et c'était assez merveilleux de pouvoir s'en sortir comme ça, avec, dit-on, cette sepsis qui est pire que l'infarctus du myocarde, qui cause plus de décès que l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux et les accidents de la route.
Alors, c'est quoi votre question?
Ma question, est-ce que vous pouvez dire deux mots sur le sepsis, si tant est que vous soyez intéressé par cette question? J'ai vu qu'il y avait de grands organismes maintenant qui s'intéressaient à ça, et que c'était un grand danger, et que, bon, face à une fièvre, il ne fallait absolument pas faire appel au médecin, il fallait aller droit aux urgences. Mais ma question n'est peut-être pas claire.
Non,
c'est plus un témoignage qu'autre chose. Je découvre qu'on peut être en danger, et qu'à l'heure actuelle, il y a une mortalité énorme chez les enfants, comme chez les adultes, comme chez les vieux. Donc, et comme c'est lié à une infection par une bactérie ou des bactéries qui n'ont pas pu être trouvées par tous les laboratoires en 2 mois, je pense que ça peut vous concerner. Bon. Mais c'est une nouveauté.
Comme je vous ai dit, je ne suis pas médecin, je ne voudrais pas aller dans les détails de votre maladie. Si les antibiotiques vous ont soigné, je trouve que c'est extraordinaire. Ce que je voudrais dire, c'est que les travaux récents montrent que la récupération après un traitement aux antibiotiques n'est pas forcément favorisée par des probiotiques. On dit souvent manger des probiotiques après un traitement antibiotique, etc. Là, il y a deux articles.
C'est quoi les probiotiques ?
Les probiotiques, ce sont, disons, des bactéries qu'on vous donne pour être en meilleure santé. Ce sont des bactéries qui sont capables de s'installer l'intestin et de rétablir un microbiote, disons, équilibré. Et les travaux qui viennent d'être publiés montrent que selon les personnes, ces probiotiques peuvent avoir des effets nuls ou des effets qui sont même contre-productifs. C'est-à-dire que vous prenez des bactéries et ça va empêcher la flore normale de se remettre bien. Donc il faut être un tout petit peu prudent de ce côté-là.
Alors, les probiotiques, attendez, on va revenir sur les probiotiques. C'est quoi ? C'est les suppléments alimentaires ?
Alors, les probiotiques, qu'est-ce que c'est ? La définition du probiotique qui a été donnée par l'OMS,
oui.
Ce sont des bactéries qui, disons, sont prises artificiellement, disons pas, ça ne va pas, ça n'est pas dans les aliments, ce sont des bactéries que vous prenez et qui sont supposées avoir un effet bénéfique sur le système immunitaire, sur votre santé.
Mais c'est pas marqué bactéries sur les produits.
Si vous achetez des probiotiques, ça, vous verrez que ce sont soit des lactobacilles, soit en général ce sont des lactobacilles.
Ah d'accord, très bien. Mais c'est bien d'être précis parce qu'effectivement, nous sommes tous chez le pharmacien.
Non, mais bon, ce sont des bactéries qui ne sont pas pathogènes, qui sont soi-disant bonnes, mais elles ne sont pas forcément bonnes pour tout le monde. Quand on les prend. Donc, il faut être. Si ça vous a fait du bien, si ça fait du bien à une personne X, ça ne fait pas nécessairement du bien à la personne qui est à côté. Moi, j'en ai pris de temps en temps. Une fois où j'avais un tout petit peu mal à l'estomac, ça se prolongeait, et j'en ai pris et ça m'avait fait un bien fou. Voilà. Et je connais des gens qui travaillent sur le microbiote, qui s'en vont par exemple faire des voyages en Inde, etc., et qui prennent des probiotiques. Donc, mais après un traitement aux antibiotiques, il ne faut pas se dire que c'est le remède miracle. C'est pas forcément vrai.
Et le fameux yaourt alors ?
Les yaourts, c'est excellent, puisque ça comporte des bactéries. Et on sait que les ferments, on le sait même depuis Mechnikov, que c'est extrêmement bon pour la santé.
Parfait. Question de madame qui a le micro.
Bonjour madame, merci pour votre magnifique exposé. Et je me pose une question, et sans vouloir faire vraiment de l'actualité, ne pensez-vous pas que les fruits et légumes industrialisés, malgré qu'ils soient dans la terre, ne jouent pas un rôle à travers cette alimentation déjà un peu perturbée par les traitements mis par nos agriculteurs et provoquerait, avez-vous constaté à travers vos études que l'alimentation très bonne, hein, c'est issu des champs et tout, mais c'est pas bio, hein, a joué un rôle dans vos remarques sur la prise de poids aux États-Unis ou en Europe?
Bon, là, vous abordez beaucoup, beaucoup de sujets. Moi, je vais simplement avoir un tout petit conseil. Je pense qu'il faut mieux laver certains fruits. C'est dedans quoi? Dans les
dans
fruits.
Le fruit.
Bon, alors vous parlez de composants qui pourraient éventuellement passer par les racines, aller jusqu'aux fruits. Bon, là, on va peut-être, mais je n'ai pas très envie d'aborder cette question-là, bon, on va prononcer un mot qui est les perturbateurs endocriniens.
Ah, oui.
Est-ce qu'éventuellement, en mangeant des fruits et des légumes, on s'expose un peu plus aux perturbateurs endocriniens que sont certains engrais, d'accord, etc. Je pense que quand même, on est dans un pays où si on vous dit que les fruits n'ont rien reçu, on peut quand même le croire. Il y a une certaine traçabilité qui s'établit. C'est sûr qu'il faut faire attention.
Bien sûr. Question et ensuite, oui. Monsieur Kiet.
Voilà. Bonjour. Je voulais savoir s'il y a, eu des travaux menés, des études comparatives sur des variétés d'aliments, par exemple des pommes qui ont été sélectionnées pour leur résistance ou des tomates, par rapport à des variétés anciennes de tomates ou de pommes, en termes de qualité nutritive, ou aussi par exemple sur des poulets qui auraient pu être élevés en plein air traditionnellement, ou des poulets élevés en batterie et nourris avec des aliments de moins bonne qualité.
Oui, bon, sur les tomates que vous aviez mentionnées, ça je ne sais pas trop, mais sur les poulets, c'est sûr qu'il y a des études qui ont été faites, qui ont notamment été faites parce qu'il y a beaucoup de volailles qui ont été traitées aux antibiotiques parce qu'on sait qu'en traitant les antibiotiques, on augmentait la masse musculaire, non seulement pour les volailles, mais aussi pour les petits veaux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup contribué à augmenter la résistance aux antibiotiques dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est certain. Alors maintenant, pour la valeur nutritive, c'est sûr que si vous aviez des poulets qui étaient plus gros, ils étaient plus nourrissants. Mais je profite de votre remarque pour justement mentionner que les résistances aux antibiotiques qui sont arrivées partout ont été dues en partie à l'utilisation des antibiotiques pour faire grossir les animaux.
Cher confrère.
Pardon pour la candeur de ma question. Vous nous avez appris, j'en suis très affecté, que ces organismes meurent.
Lesquels? Comment, les bactéries?
Les bactéries meurent. Mais comment naissent-ils ou naissent-elles? Et pourquoi?
Non, je ne vous ai pas dit que les bactéries mouraient. Elles mouraient si on les tuait.
Vous avez dit qu'il y en avait qui tuaient les autres. Alors.
Ah oui, ah, oui bon. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, alors, les bactéries qui tuent les autres, elles les tuent.
Et comment naissent-elles? Sont-elles de toute éternité là, les bactéries?
Je pense que vous avez déjà entendu parler, vous me provoquez, vous avez entendu parler que Pasteur s'était vraiment acharné à lutter contre la théorie de la génération spontanée. Les bactéries donnent naissance à deux bactéries, en général par division binaire, et il n'y a pas de bactéries qui naissent spontanément.
Merci de m'avoir rappelé Pasteur.
Madame.
Quel est votre avis sur l'enrichissement des laits infantiles en pré... Quel est votre avis sur l'enrichissement des laits infantiles en pré- ou probiotiques?
Moi, je ne savais pas qu'il y avait des enrichissements de lait en pré- et probiotiques.
C'est un des arguments de persuasion des laboratoires pour...
Bon, écoutez, j'ai donné mon avis sur les probiotiques. Je vous ai dit que j'en avais déjà pris, que je connais des spécialistes des microbiotes qui prennent des probiotiques quand ils vont en voyage, etc. Mais je vous ai dit aussi que les probiotiques agissent différemment selon les différentes personnes. Partant de là, l'article que je mentionnais disait justement que si quelqu'un, par exemple, va avoir une opération dont on sait qu'il va falloir qu'il subisse un traitement aux antibiotiques, on dit qu'il vaudrait mieux que cette personne ait un prélèvement fécal pour pouvoir lui réintroduire après sa flore intestinale pour faire une sorte d'autogreffe intestinale de bactéries. Donc ça, c'est clair qu'on est chacun différent. C'est votre carte d'identité, hein, votre microbiote intestinal. Donc pour venir à votre question, voilà, c'est ce que j'aurais comme commentaire.
Parce qu'en fait, comme c'est dans le lait, c'est une alimentation qu'ils ont en permanence, ces enfants.
Oui, mais enfin...
enfin, tous les jours. Et l'argument, c'est pour leur constituer une bonne flore intestinale.
Oui, oui non, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour savoir exactement à quoi on en est. Ça, c'est une norme, et ça, c'est une des choses qui est très importante à l'heure actuelle. On a beaucoup parlé de microbiote, etc. À l'heure actuelle, on fait des corrélations. Par exemple, on fait une corrélation entre microbiote d'un obèse vis-à-vis d'un microbiote d'une personne maigre, mais on n'est pas encore à l'étape de dire c'est exactement cette bactérie-là qui est responsable d'eux, etc., etc. On est en train d'avancer énormément assez vite, mais c'est une discipline qui est en train de naître. Alors, vous avez aussi des start-up, par exemple, qui essaient de trouver des biomarqueurs, c'est-à-dire d'essayer de dire, on va analyser le microbiote de personnes, d'un certain nombre de personnes, et on va leur dire, vous avez peut-être des signes précurseurs de ceci ou de cela, d'obésité ou d'autres troubles. Mais c'est une discipline qui commence, quoi. Dans 10 ans, quand vous me réinviterez, peut-être qu'on aura fait des progrès.
Mais sûrement, ça va, ils vont très très vite. Une question ? Une autre question ? Parfait. Alors, je voudrais remercier notre secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, notre chimiste devenu spécialiste de la nutrition et des problèmes donc d'obésité, etc.
De la microbiologie
et donc de la nutrition, de nous avoir fait partager l'état de ses recherches et surtout de ses conseils et qui libre de ses convictions. Merci infiniment de nous avoir permis cette belle après-midi.